Merci, Monsieur le Président Asselin. Je vais être bref pour laisser le maximum de temps, bien sûr, pour Monsieur Raymond Aubrac. Je suis donc Michel Barbeau, secrétaire général de l'Association pour des études sur la résistance intérieure. Je voudrais vous dire que c'est un honneur et un bonheur pour moi d'être aujourd'hui ici parmi vous à Cambrai, pas seulement parce que je suis cambraisien, ou presque, des environs. Je suis né à Saint-Va, j'ai habité Villers-Plouy, mais aussi et surtout parce que M. Raymond Aubrac est venu aujourd'hui à Cambrai vous rencontrer. Et pour moi, c'est un grand bonheur et un grand honneur. Je voudrais remercier M. Pascal Asselin, votre président, qui a eu l'heureuse initiative d'inviter aujourd'hui M. Raymond Aubrac. Remercier Mme Laurence Cédon, grâce à laquelle de nombreux élèves sont ici présents. Et je peux vous dire que Raymond Aubrac aime répondre aux questions des jeunes et des moins jeunes aussi. Hein. Monsieur Christian Denain, je voudrais remercier, comme Monsieur Denain qui est conseiller municipal délégué aux associations patriotiques et qui a beaucoup œuvré, qui a œuvré merveilleusement pour faire connaître l'AERI dans le Cambrésis, notamment au cours des célébrations récentes d'il y a 3 semaines. Et puis aussi remercier Monsieur Alain Desaigne, le directeur des affaires culturelles et du théâtre de Cambrai, qui nous accueille chaleureusement aujourd'hui. Et puis remercier aussi Brigitte Leclerc, qui est à l'origine de tout. Voilà, je voudrais dire quelques petits mots sur l'AERI avec l'autorisation de Monsieur Raymond Aubrac, qui en est le président d'honneur. L'AERI a été créée en 1993 par quelques résistants connus comme Serge Ravanel, compagnon de la Libération, Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Hélène Vianney, Jean-Bernard Bader, Jacques Delarue, les anciens ministres Jean-Pierre Bloch, Maurice Plantier. L'objectif de cette association était et est toujours de transmettre l'histoire et la mémoire de la résistance aux jeunes générations, de transmettre les valeurs de la résistance aux jeunes générations. Ces valeurs, vous les connaissez, loyauté, désintéressement, capacité de dire non, droit de l'homme, solidarité, tolérance, optimisme, courage, etc. L'association a 3 activités principales. D'une part, elle relate l'histoire de la résistance dans les départements et les régions, avec l'aide d'historiens, de professeurs, de résistants. Eh bien, elle relate cette histoire. Et ensuite, ce travail est mis sur CD-ROM ou DVD-ROM et est mis à disposition des centres de documentation et d'information des établissements scolaires et est mis également à la disposition des musées, des librairies. S'agissant du Nord, M. Lasselin en a parlé, le travail est en train de se faire. C'est M. Gesquier qui était présent ici le 12 septembre, qui nous a fait un brillant exposé sur la résistance dans le Nord-Pas-de-Calais. M. Gesquer est en train, avec un petit groupe qui malheureusement est un peu restreint pour le moment, j'espère qu'il va s'élargir, est en train de travailler justement sur l'histoire de la résistance dans le Nord-Pas-de-Calais. L'autre activité de l'association, c'est de mener une action sur les valeurs de la résistance auprès des jeunes. Alors les valeurs des jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont pas exactement les mêmes que les valeurs d'il y a 70 ans. Cette action consiste à faire en sorte que les valeurs des jeunes d'aujourd'hui se rencontrent avec les valeurs de la résistance, et nous faisons mener aux jeunes des actions concrètes qui leur permettent de mettre en œuvre justement une valeur qu'ils ont choisie en relation avec les valeurs de la résistance. Et puis nous faisons également un musée virtuel national de la résistance, donc un musée sur Internet, musée national, et ce musée est réalisé par l'association en coopération avec la Fondation de la Résistance, à laquelle l'AERI est affiliée, la Fondation Charles de Gaulle, la Fondation de la France Libre, puisqu'il s'agit de la résistance extérieure aussi, musée de la résistance intérieure et extérieure, le musée de la mémoire et de la déportation et différents autres organismes, et des ministères comme le ministère de la Défense, de la Culture et de l'Éducation, entre autres. Voilà. Eh bien, écoutez, votre présence nombreuse ici aujourd'hui démontre l'intérêt que vous portez à cette période de l'histoire. Et c'est aussi, je crois, la manifestation éclatante de l'énorme dette de reconnaissance que nous avons à l'égard des résistants que représente aujourd'hui M. Raymond Aubrac. Je voudrais vous dire, juste pour terminer, que vous pourrez, en sortant tout à l'heure, prendre connaissance des différents CD-ROM qui ont été réalisés sur l'histoire de la résistance dans les départements. 18 d'entre eux, 18 départements ont été réalisés, ainsi que la région Île-de-France. Donc vous pourrez trouver ces documents à la sortie, ainsi que des livres, une documentation également sur l'association. On m'a demandé enfin de vous signaler l'existence du film qui s'appelle « De l'ombre à la lumière » de NEP TV, et un DVD a été réalisé sur ce film. Il est en vente à la boutique de la Voix du Nord de Cambrai et au Furet du Nord de Cambrai. Voilà. J'arrête là. Merci beaucoup, Monsieur Lasselin, et je vous rends la parole. Donc, je crois maintenant que je vais passer la parole alors à Monsieur Raymond Aubrac, qui va donc vous parler pendant quelques temps, et ensuite vous pourrez très librement vous poser des questions diverses et variées, et il se fera un plaisir d'y répondre. Merci.
Donc, Monsieur le Président de l'UTL, mon général secrétaire général de l'ARI, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je dois vous avouer que je suis très très impressionné d'être ici en face de vous. Ça n'est pas mon emploi habituel. Mon emploi habituel maintenant, avec hélas mes 95 ans, c'est d'aller rencontrer des jeunes. Nous sommes, nous les vieux résistants, généralement invités dans des classes de troisième de collège ou de terminale de lycée, des classes qui ont la Seconde Guerre mondiale à leur programme. Alors, d'habitude, devant les classes, je résume un peu ce qui m'est arrivé entre 1939 et 1945, et ensuite j'essaie de répondre à leurs questions. Alors, si vous voulez bien, je suis très heureux de voir qu'il y a quelques jeunes parmi nous. Si vous voulez bien, on va faire la même chose, parce que je ne suis pas capable de vous faire une conférence de 2 heures. Je vais donc essayer de vous dire ce qui m'est arrivé dans cette période. Et puis ensuite, si vous voulez bien me poser des questions, j'essaierai de vous répondre. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui se passe pour moi à cette époque? Je suis né juste avant la Première Guerre mondiale, en 1914, le jour de l'assassinat de Jean Jaurès, le 31 juillet 1914. Et au moment où la guerre éclate, en 1939, je suis en train de faire mon service militaire comme sous-lieutenant du génie dans un régiment de Strasbourg. Donc, la mobilisation arrive et je continue ce que j'avais commencé de faire depuis quelques mois, c'est-à-dire de construire des casemates le long du Rhin pour arrêter l'envahisseur, comme une sorte de prolongement de la ligne Maginot. Je ne vous parlerai pas du sort de ces casemates qui n'ont en vérité servi à rien. Mais la drôle de guerre, l'hiver 39-40, s'écoule ainsi. Les uns attendent, les autres coulent du béton. Et puis en mai, c'est l'attaque allemande. Alors l'attaque allemande, évidemment, on n'y croyait plus guère, mais elle entraîne toute une série de mesures, y compris des mesures stratégiques qui ne furent pas des plus heureuses et qui eurent comme résultat de faire prendre l'armée française, l'armée britannique dans la poche de Dunkerque. De notre côté, en Alsace, nous avons hélas évacué toute l'Alsace sans combattre. Les Allemands nous suivaient à peu près à 2 kilomètres. Et voilà, nous sommes arrivés dans les Vosges. Notre travail à nous autres dans le génie était de faire sauter les plombs derrière l'armée qui se repliait dans les Vosges. J'ai été fait prisonnier le 21 juin 1940 et je me suis trouvé emmené dans un camp de prisonniers à Sarrebourg avant qu'on ne transfère les prisonniers en Allemagne. Bon, en tant que prisonnier, j'ai eu tout de suite pensé à l'évasion et j'ai eu de la chance. J'avais pu prévenir mon épouse, nous étions mariés depuis novembre 1939. Elle était agrégée d'histoire et enseignante à Strasbourg. Elle avait été repliée en Bretagne. J'ai pu la prévenir. Pour prévenir ses familles, les familles, les prisonniers écrivaient des bouts de papier et les laissaient tomber dans les fossés pendant qu'on les emmenait en marche vers les camps. Et les gens du pays ramassaient ces papiers et les envoyaient à destination. Si bien que j'étais dans mon oflag à Sarrebourg, Lucie a pu venir et elle a pu, heureusement, me faire passer des bleus de mécanicien parce que c'est difficile de s'évader en uniforme, naturellement. Bref, sans grande difficulté, je me suis évadé. Nous sommes venus à Paris. J'ai tout de suite décidé qu'il fallait partir dans la zone non occupée directement, c'est-à-dire la zone sud, et nous sommes établis à Lyon, où Lucie a eu très vite un poste d'enseignante d'histoire au lycée de jeunes filles de Lyon. Moi, j'ai tout de suite trouvé du travail, il y avait énormément de prisonniers, à l'époque, on trouvait du travail facilement, et au mois de septembre, Lucie, voulant avoir un poste à Lyon, a été s'adresser à ses autorités académiques qui étaient à Clermont-Ferrand, comme toute l'université de Strasbourg. Et puis, 48 heures après, elle est rentrée à Lyon en me disant, voilà, nous avons créé une petite organisation, j'ai retrouvé quelques-uns de nos amis à Clermont, et nous allons résister contre les Allemands. Alors là, très franchement, j'étais légèrement sceptique. J'avais vu passer l'armée allemande, j'avais vu son matériel, j'avais vu son moral, j'avais traversé une partie de la France dans un chaos indescriptible, dont certains d'entre vous se souviennent probablement, et je dois avouer que pendant 24 heures, j'étais un peu sceptique. Comment allons-nous faire pour nous opposer à l'armée allemande et à tout ce qui s'établit ? Et puis, au bout de 48 heures, il est arrivé un des membres de la petite conspiration à 5 ou 6 conspirateurs, dont Lucie faisait partie depuis 2 jours. On a discuté, j'ai été convaincu, et nous avons cherché, non pas à résister, il n'était pas question de résister, le mot lui-même n'existait pas, il était simplement question de réagir à une situation que nous trouvions insupportable et donc contre laquelle nous voulions faire quelque chose. Les mots « faire quelque chose », ça a été réellement, un peu partout, dans tous les endroits où ça s'est produit, la première réaction des gens qui vont s'engager dans ce qui sera appelé la résistance. Alors le « faire quelque chose », ben, c'était, on n'avait rien, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas d'organisation, ça a été des graffitis sur les murs, comme font les jeunes quand ils ne sont pas d'accord, et puis quelques tracts qu'on écrivait à la main, qu'on reproduisait, qu'on distribuait, et on s'est aperçu tout à coup, très vite, de quelque chose de très important. C'était le problème de l'information. Je pense qu'on peut dire tranquillement que les premiers efforts un peu sérieux de résister contre non seulement la présence des Allemands, mais aussi le régime de Vichy, c'était de distribuer de l'information. Personne ne savait ce qui se passait. Naturellement, la presse était censurée. Naturellement, la radio, qu'on appelait la CSF, était entièrement contrôlée, au nord par les Allemands, au sud par Vichy. On ne savait plus du tout ce qui se passait. On avait déjà du mal à retrouver ses parents, ses proches, ses amis. Mais sur le plan général, nous étions tous bombardés de fausses nouvelles. C'est ce besoin d'information qui a conduit un grand nombre de petits groupes à travers la France, des groupes très très faibles, très minoritaires, très petits, à commencer à faire des tracts et puis ces journaux clandestins. La naissance des journaux clandestins est de la génération spontanée, générale sur le pays. On m'a expliqué que depuis quelques mois, la Bibliothèque nationale de France est en train de les collecter pour les numériser. Et ils en ont repéré 1200 titres. 1200 titres de journaux clandestins, du nord au sud, de l'est à ouest, dans toute la France. Ça a été le réflexe spontané. Alors, quelques-uns n'ont eu qu'un numéro, ou deux numéros, naturellement. Et puis, quelques autres ont survécu. Donc, pour nous, à Lyon, c'est comme ça que ça commence. Nous commençons à produire, non sans difficulté. Si ça vous intéresse, nous reviendrons là-dessus. Un journal clandestin, le nôtre s'appelait Libération. Libération Sud, parce qu'il y a eu un Libération Nord qui était cousin germain. Le premier numéro est sorti en juin 41, avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer pour trouver du papier, trouver des imprimeurs, distribuer le journal. Le plus facile était de trouver des journalistes. Il y en avait autant qu'on voulait à Lyon. Et c'est le réseau de distribution de ces journaux clandestins qui va devenir, on peut dire, le squelette des futurs mouvements de résistance. Alors en même temps, dans la même époque, et même plus tôt, en même temps que ces mouvements de résistance qui vont avoir un souci double d'information et de propagande, il y a ce qu'on appelle les réseaux. Alors les réseaux, c'est d'abord des réflexes du gouvernement britannique qui est assiégé par l'armée nazie et qui a besoin de savoir ce qui se passe sur le continent, et qui envoie des officiers avec des postes émetteurs-récepteurs qui créent des petits groupes de spécialistes pour surveiller les communications, les mouvements des troupes, les problèmes économiques, le comportement de la population. Le général de Gaulle, qui lance son appel du 18 juin, fait la même chose. Il envoie lui aussi des équipes pour créer des réseaux, les réseaux de la France libre, en même temps qu'il a appelé des volontaires à le rejoindre en Angleterre. Ça commence comme ça, ça se développe petit à petit dans le courant de l'année 41. On commence à suivre les événements mondiaux et petit à petit, on voit, à partir du mois de juin 41, l'Union soviétique dans la guerre. À partir du mois de décembre 41, les États-Unis d'Amérique dans la guerre. Le panorama mental dans notre population se modifie petit à petit. Et bien entendu, la résistance informe, explique et commence à tracer des perspectives. Alors, parmi ces perspectives se trouve une perspective très importante, notamment en France, qui est celle de l'unité de ces mouvements, qui sont nombreux, des dizaines de ces mouvements, qui plus ou moins se connaissent les uns les autres, et qui vont... Alors, la France est très divisée politiquement au début de la guerre. Ceux qui se souviennent de cette époque se souviendront des luttes du Front populaire, des ligues factieuses, de tous les combats politiques qui partageaient la population française, y compris d'ailleurs les étudiants dont je faisais partie, qui à l'époque étaient politisés. Et ces mouvements de résistance, ils ont en gros un centre de gravité à gauche, c'est incontestable et incontesté. Mais c'est pas uniquement la gauche. Il y a aussi des gens du centre, des radicaux, des modérés, et même des gens de droite qui sont patriotes et qui refusent l'occupation allemande. Donc il y a une très grande variété politique. Mais à la base, malgré leurs nuances différentes, il y a quelque chose de commun naturellement. La résistance contre les nazis est, pour la majorité d'entre eux, la résistance contre la politique insupportable de ce gouvernement de Vichy avec ses lois de discrimination et toute la politique de répression pour laquelle ils aident la police allemande. C'est la naissance de l'unité de la résistance. Elle est voulue d'une part par le général de Gaulle, qui voit les choses avec sa vision de stratège militaire, qui veut voir la France rentrer dans la guerre, et puis d'autre part par la base, c'est-à-dire les gens qui reçoivent ces journaux et qui constatent qu'au fond, malgré leur variété, ils ont une grande similitude. C'est la mission de Jean Moulin. Il débarque au début de janvier 1942. Il est parachuté près de Béziers. Le hasard des choses, je vous raconterai ça si vous le souhaitez, fait que je le rencontre très vite, 8 jours après son parachutage à Lyon. Et il a comme mission, d'une part, d'aider à unifier la résistance de la zone sud, et d'autre part, d'aimer à construire l'armée secrète. Alors, ça va être mon travail. J'ai travaillé dans le petit groupe paramilitaire, dans mon mouvement, les gens qui se préparaient à combattre, à faire l'armée secrète, et plus tard les FFI. Alors, l'année 42 se passe comme ça. C'est ce qui singularise la résistance française parmi tous les pays d'Europe occupés, c'est son unité. Et puis, il y a naturellement la répression. Personnellement, je suis arrêté par la police française le 15 mars 1943 avec 2 de mes adjoints. Heureusement, la police ne trouve rien. Je suis remis en liberté provisoire, entre parenthèses, grâce aussi à l'intervention de mon épouse, Lucie. Je reprends du service, on change mes faux papiers et le 21 juin 1943, je suis arrêté avec Jean Moulin à Caluire dans une réunion très importante qui est consécutive à l'arrestation du chef de l'armée secrète, le général de Lestrin. Alors, cette fois, c'est la Gestapo, c'est 4 mois de prison à Montluc avec tout ce que ça comporte. Et puis, mon épouse étant spécialisée dans les évasions, elle arrive à monter une opération extraordinaire à la tête d'un groupe franc, tout en continuant d'enseigner l'histoire et géographie au lycée Edgar Quinet. À la tête d'un groupe franc, elle attaque les Allemands en pleine ville de Lyon. Il y a une bataille, je reçois une balle dans la joue, peu importe, je ne l'ai pas senti, et c'est la libération. Après 3 ou 4 mois d'errance dans le Rhône, dans l'Ain, dans le Jura, un avion anglais vient nous chercher, Lucie enceinte, le petit garçon qui a 2 ans, et moi, et nous emmène à Londres. Voilà, c'est autrement dit, je suis sorti de la résistance le 21 juin 1943, le jour de l'arrestation de Jean Moulin. Ensuite, j'ai été envoyé à Alger, à l'Assemblée consultative. À la libération, le général de Gaulle m'a nommé commissaire de la République. Ça a été pour moi aussi un chapitre très important et très intéressant. Nous en parlerons si ça vous intéresse. Nous étions 18 commissaires de la République chargés de rétablir la République dans les 18 régions de France. Et je suis actuellement le seul survivant. J'étais le plus jeune. Ensuite, j'ai repris mon métier d'ingénieur. J'ai été chargé d'organiser, de diriger le déminage de la France. Et puis, j'ai ensuite travaillé en milieu international à l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation en Italie, à Rome. Ensuite, au secrétariat du secrétaire général des Nations Unies à New York. Et à travers tout ça, comme un fil d'Ariane, une aventure vietnamienne qui commence en 1944 et qui aujourd'hui n'est pas encore entièrement terminée. Voilà, au fond, ce que je voulais essayer de dire rapidement, en me livrant à vos questions. Alors, en ce qui concerne les questions, ma première difficulté pour vous répondre, c'est d'entendre les questions. Parce qu'il se trouve que mon oreille droite a 95 ans, mon oreille gauche aussi, et heureusement, j'espère que mon voisin pourra m'aider. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur Aubrac. Nous allons essayer de poser des questions de manière un petit peu structurée. Régis, si tu veux bien prendre le micro et partir dans l'autre sens. Je vais tout d'abord m'adresser aux plus jeunes, leur demander de poser leurs questions. Ensuite, il y a là-haut des lycéens qui sont là. Je montrerai pendant ce temps-là, Régis, tu voudras bien demander aux adultes, aux membres de l'UTL et aux autres de poser leurs questions. Première question, mademoiselle.
Comment avez-vous su que l'appel du général de Gaulle était important pour la France ?
Vous avez entendu ? Comment avez-vous su que l'appel du général de Gaulle était important pour la France ?
Était
important.
Écoutez, je vais vous donner l'avis d'un résistant, d'un très modeste résistant, tout au début. Ça ne m'a pas paru important, ni à mes camarades. Ça m'a paru très intéressant, parce que l'appel du général de Gaulle appelait à continuer le combat. Et nous pensions, en effet, qu'on aurait dû et qu'on devrait continuer le combat. Seulement, il avait deux défauts. D'abord, il ne s'adressait pas à nous. Il ne s'adressait pas aux gens qui résistaient à l'intérieur. Le général appelait les gens à le rejoindre pour constituer une armée. Deuxièmement, je m'excuse auprès de mon voisin, aux yeux de beaucoup de mes camarades, le premier défaut du général était d'être général. Parce que, très franchement, nous n'avions pas une grande confiance dans les chefs militaires. Excusez-moi, mon général. Car ce sont les chefs militaires qui nous avaient mis dans l'état où nous étions en juin 40, dans notre avis. Et puis en plus, cet homme avait l'outrecuidance de s'appeler de Gaulle. Ça faisait beaucoup. Alors, évidemment, on a appris, on ne l'a pas entendu, on a appris l'appel du général. Entre parenthèses, le jour de l'appel du général, je n'étais pas encore tout à fait prisonnier de guerre. J'ai été fait prisonnier 2 jours après. Mais on ne savait pas qui il était. On a réellement fait connaissance du général de Gaulle quand on a commencé à voir quelques-uns de ces hommes qu'il envoyait en France avec des missions de renseignement ou des missions diverses. Alors on a compris que ce général était réellement attaché à la République, qui combattait dans le même sens que la majorité d'entre nous, la volonté commune d'entre nous. Et on s'est rendu compte en plus que il était en train de se battre pour mettre sur pied une organisation avec laquelle nous pourrions avoir des relations et dont nous pouvions attendre un soutien. Mais je vous ai parlé franchement, pour moi, à l'origine, l'appel du général de Gaulle, c'est très intéressant, mais je ne vois pas encore l'importance. Ça répond à ta question ?
Voilà, une autre question.
Quel a été le moment le plus difficile pour vous pendant cette guerre ?
Le moment le plus difficile.
Le moment le plus difficile pendant la guerre. Il y en a eu quelques-uns. Je dirais, finalement, j'ai été fait prisonnier 3 fois. Une fois comme prisonnier de guerre, une fois par la police française et une fois par la Gestapo. Bon, ça fait 3 moments pénibles, difficiles à passer. Le pire était le troisième, naturellement. On n'a pas de balance pour ça, hein. Ça répond à ta question ?
Une autre question.
Qu'avez-vous ressenti en rencontrant le général de Gaulle et quand l'avez-vous rencontré ?
Qu'est-ce que vous avez... La rencontre avec le général de Gaulle.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre première rencontre avec de Gaulle ?
La première fois que j'ai rencontré le général de Gaulle, c'était en février 1944, après qu'un avion anglais soit venu nous chercher sur un terrain clandestin dans le Jura pour nous emmener à Londres. Alors, quand j'ai rencontré le général de Gaulle, il avait vaguement entendu parler de moi, naturellement. Il avait eu les rapports de Jean Boulin, etc. Et il m'a demandé de lui parler de l'arrestation de Jean Boulin. J'étais impressionné. Le général de Gaulle, c'était un personnage vraiment impressionnant, hein. Il n'y avait pas seulement sa légende à ce moment-là, on est en 44. Il y a aussi la stature, le grand bonhomme avec la tête pas très grande mais très haute, et puis une espèce d'autorité qui émanait de lui. Quand il donnait un ordre, le général de Gaulle, on disait « Oui, mon général », quand on était d'accord. Et quand on n'était pas d'accord, on disait « Bien, mon général ». Et puis, pour dire « Non, mon général », eh bien, c'était très difficile. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je vous jure que c'était dur. Voilà. À part ça, moi, j'ai toujours admiré la vision du général de Gaulle, la manière dont il comprenait le monde, quand il voyait l'avenir, quand il comprenait la situation, et la manière qu'il avait aussi optimiste de voir l'avenir de notre pays. Et pour moi, c'était très, très important. Cet homme, dès le début, dès avant la défaite, avait compris qu'en se battant, on avait une chance. Et là, voyez-vous, il rejoint tous les résistants. En tant que vieux témoin, je rencontre des jeunes comme ça. Je suis un peu inquiet, parce que je trouve qu'il manque un peu d'élan vital. Il manque un peu de sûreté en eux. Beaucoup de jeunes qu'on rencontre maintenant ne sont pas sûrs de l'avenir. Ils ont des doutes, ils manquent de projets. Alors je leur dis, et avant de leur dire, je l'ai vérifié auprès de mes camarades. Quand je leur parle de ces résistants, je leur dis que ces hommes étaient volontaires, désobéissants, solidaires, etc. Et j'ajoute toujours qu'ils étaient optimistes. C'est-à-dire qu'on ne s'embarquait pas dans la résistance si on ne pensait pas, même quand c'est devenu très dangereux, que ça allait servir à quelque chose, que ça allait servir à retrouver la liberté et l'indépendance. C'est vrai aussi bien de ceux qui se sont engagés dans la résistance autour du général de Gaulle. Et ça, malgré sa sévérité, malgré son autorité, ça aussi, cet optimisme-là, ça émanait du général de Gaulle. Ça répond à ta question ?
Encore une question ici.
Quelle action avez-vous menée en tant que résistant ?
Quelles actions avez-vous menées en tant que résistant ?
Ah, quelles actions j'ai menées en tant que résistant ? Ben, tu sais, ça a duré 4 ans, alors pendant 4 ans, j'ai fait beaucoup de choses, y compris peut-être quelques bêtises, hein. On ne peut pas ne pas faire quelques bêtises. Mais j'ai, d'abord quand on a fait les journaux clandestins, comme mes camarades, j'ai cherché du papier, j'ai cherché des imprimeries, j'ai participé à la distribution. Par exemple, on utilisait beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes pour porter les messages, pour porter les paquets, parce qu'on pensait, c'était probablement vrai, qu'elles échappaient plus facilement à la police ou à la Gestapo. Alors nous faisions notre journal à Lyon, et il était distribué dans la zone sud, à Valence, à Grenoble, à Marseille, etc. Et un jour, la jeune femme qui avait l'habitude de la porter à Grenoble était malade. Alors j'ai pris la valise, mes camarades m'ont dit « tu devrais porter le journal à Grenoble ». J'ai pris le train. Les trains étaient bondés, il n'y avait pas beaucoup de trains et tout le monde courait après du ravitaillement. J'ai mis la valise dans le filet d'un compartiment et je me suis mis dans le couloir à quelques mètres de la valise. Et puis quand je suis arrivé à Grenoble, la valise, elle avait disparu. Elle avait été volée. Alors, je suis rentré à Lyon. Mes camarades ne m'ont pas félicité. Et nous avions à Grenoble une femme qui s'occupait de la distribution du journal, Madame Gonnet. 8 jours après, elle nous a envoyé un message. Le voleur a ouvert la valise. Il espérait trouver un jambon ou une motte de beurre. Quand il a vu ce que c'était, il l'avait abandonné dans la salle d'attente de la gare. Les cheminots avaient pris la valise, avaient pris les journaux et les avaient bel et bien distribués à Grenoble. Voilà, un souvenir que j'ai.
Autre question
et
ici.
Et puis voilà, j'ai des souvenirs divers. Mais laissons venir d'autres questions. Voilà.
En quoi ça consiste d'être commissaire de la République ?
En quoi est-ce que ça consiste d'être commissaire de la République ?
En quoi ça consiste d'être commissaire de la République ? Oui, alors c'est un métier qui est sorti de la mémoire. En réalité, quand je dis que j'ai été commissaire de la République, on me prend souvent pour un vieux commissaire de police à la retraite, ce qui n'est pas déshonorant, mais c'est simplement inexact.
Une autre question ?
Si je veux vous reporter par la mémoire à la fin de l'année 43. À ce moment-là, on sait qu'il va y avoir... Les troupes alliées sont en Algérie. Le courant général de la guerre a changé et on est en droit d'attendre un débarquement des forces alliées en Europe et notamment en France. Ça pose un problème. Le débarquement va commencer en France ou va avoir lieu en France. Pendant des semaines ou des mois, personne ne sait, la France va être libérée par étapes et il faut qu'elle soit administrée. Il faut que les choses soient organisées. Alors les Américains avaient préparé une solution. Ça s'appelait l'AMGOT. Ça veut dire administration militaire des territoires occupés. Et ils appliquaient cette méthode en Italie. C'est-à-dire qu'ils avaient, dans l'armée américaine, préparé un certain nombre d'hommes, des sous-officiers, des officiers, à occuper les postes. Donc, pour la France, ils allaient préparer les préfets, les maires des grandes villes, etc. Alors, en Italie, ça allait. En France, c'était inacceptable. De Gaulle n'en voulait pas. Les gens de la résistance non plus. Il fallait trouver une solution. Alors à l'époque, nous sommes fin 43, début 44, la résistance a mûri, elle s'est organisée. Il existe un Conseil national de la résistance avec des commissions, des sous-commissions, des experts. Il existe aussi à Paris la délégation générale du gouvernement d'Alger, avec aussi des spécialistes. Ces deux groupes travaillent très, très étroitement ensemble dans les conditions de la clandestinité, sous des répressions féroces. Et ils s'échangent des messages entre le gouvernement d'Alger, le gouvernement de Gaulle et ce gouvernement clandestin de la France occupée. Et on finalement se met d'accord sur une formule qui comporte 2 volets. D'une part, on va créer dans chaque département un comité départemental de libération qui va comporter un représentant de toutes les organisations de résistance et des partis politiques et des sensibilités politiques résistants dans le département. Ce comité va avoir pour tâche de conduire la fin de la résistance, la libération, éventuellement l'insurrection, chaque fois que l'insurrection sera possible, mais les pouvoirs de l'État, c'est-à-dire le pouvoir de nommer des fonctionnaires ou révoquer des fonctionnaires, va être confié à des individus qui vont se trouver un par région. Il y a 18 régions. Alors ces individus sont nommés par De Gaulle avec l'accord de la résistance, à la suite d'échanges de messages entre Paris et Alger. Et on va leur donner la mission très simple, rétablissez la République. C'est-à-dire, vous disposez de pouvoirs législatifs, y compris de suspendre l'application des lois, de prendre des tests législatifs à titre provisoire, tout ça naturellement, l'exécutif, tous les attributs du pouvoir exécutif, et même le judiciaire. Et ces gens s'appellent les commissaires régionaux de la République. C'est une mission impossible, naturellement, et voilà. Donc, on arrive dans la région à laquelle on est assigné, et on prend le pouvoir au nom de l'État, au nom de Gaulle, au nom du gouvernement, au nom de la République. Alors, il faut nommer les préfets, il faut désigner les maires des grandes villes, il faut mettre en place très vite des tribunaux, parce qu'il y a une demande, un besoin d'épuration, il faut faire refonctionner la machine économique le plus vite possible. Voilà en gros les missions impossibles des commissaires de la République qui vont être poursuivies jusqu'au moment où le gouvernement à Paris aura pu établir ses connexions, ses liaisons et réellement assumer le pouvoir. Ça veut dire que pendant une période de plusieurs mois, il n'y a pas eu une France. Il y a eu des régions libérées les unes après les autres. Pour avoir exercé ces fonctions et donc rencontré mes collègues, nous avions des réunions tous les mois ou toutes les 6 semaines et nous échangeions nos expériences. Eh bien, nos expériences étaient différentes. Les problèmes que remplaçaient... Excusez-moi. Les problèmes que rencontrait Francis Clauzon ici, dans le Nord et le Pas-de-Calais, les problèmes de ravitaillement, les problèmes énormes des mineurs, et avec leurs revendications économiques et politiques, les problèmes de l'épuration, même les problèmes des luttes politiques qui sont réapparus très vite, ce n'était pas du tout les problèmes qu'on avait dans les Alpes-Maritimes. Et on aurait pu imaginer que la France ne retrouverait pas tout de suite son unité. Évidemment, il y avait l'autorité morale du général de Gaulle, il y avait l'autorité morale de la résistance, symbolisée par le Conseil national de la République. Le Conseil national de la résistance et son programme. Voilà, ça a évolué comme ça. Et les commissaires de la République sont restés en fonction jusqu'à fin 45, début 46. Moi, personnellement, j'ai eu l'énorme privilège d'être retiré et remplacé dans mon poste fin janvier 45. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question.
Oui, une dernière question de jeune ici.
Pourquoi vous et votre femme avez voulu être résistant?
Quelle raison donc intime avez-vous eue pour être résistant?
Pourquoi on a voulu être résistant? D'abord, on n'a pas voulu être résistant. On a voulu exprimer qu'on n'était pas d'accord. Voilà. On a voulu faire quelque chose. On a voulu faire quelque chose parce qu'on a été choqués par la présence des Allemands sur notre territoire, par leur comportement, par le fait qu'ils se mettaient à exploiter notre pays. Lucie m'a raconté, quand les Allemands sont arrivés à Vannes, Morbihan, où elle enseignait, Ben, ils ont pris en main le lycée. Ils ont établi, ils ont transformé, au moment du baccalauréat, le lycée de Vannes en caserne. Et puis, ils ont supprimé la République. Le maréchal Pétain a supprimé la République, liberté, égalité, fraternité. Il a établi un régime qui était de toute évidence inspiré par les idées, pas seulement les plus conservatrices, mais les plus réactionnaires. Et puis, il s'est embarqué dans la collaboration dès octobre 40 avec l'entrevue de Montoire. Tout ça nous a paru insupportable. Et voilà. Alors on a commencé à le dire, on a commencé à l'exprimer. Et en plus, nous étions persuadés, c'était peut-être de la folie, c'était peut-être de l'utopie, je ne le crois pas. Je crois qu'on avait raison. On a commencé à penser que ça servirait à quelque chose. Excusez-moi, je parle trop. Voilà ma réponse.
À toi, Régis.
Que reste-t-il, selon vous, de l'idéal et de l'esprit de la résistance ?
Ben, je crois qu'il reste beaucoup de choses. Finalement, les réformes qui ont été faites, les réformes du programme du CNR, qui expriment l'optimisme, hein, c'est vraiment une synthèse d'optimisme dans un moment où le pays est dans un état physique épouvantable, d'une pauvreté dont on n'a pas idée maintenant. Si on prenait des chiffres, on s'apercevrait que maintenant notre pays est entre 15 et 20 fois plus riche qu'il n'était en 45, avec ses centaines de milliers de destructions. Ce programme exprime l'optimisme et une partie a été réalisée, entre parenthèses, par le général de Gaulle. Quand le général de Gaulle prend le pouvoir en 44, il ne fait pas ce que font les chefs de gouvernement dans notre pays. Il ne fait pas un discours pour exprimer son programme. On le connaît. C'est le programme du Conseil national de la résistance. Et il va en réaliser une partie, une bonne partie. Notamment le volet social de solidarité, une partie du volet économique, qui est un complément des exigences de l'épuration, en nationalisant des grandes banques, des compagnies d'assurance, en contrôlant, en mettant la main sur le contrôle de l'économie. Bon. Alors, une partie de tout ça a été petit à petit, à raison des luttes politiques, un petit peu rognée sur les bords. On n'a plus les mêmes solidarités générales que ce qu'a exprimé le programme de la résistance. On discute sur les retraites, on discute sur les remboursements de médicaments, tout ça vous le savez bien. Mais le fondement, la solidarité, la notion que chacun doit contribuer à la mesure de ses moyens pour recevoir à la mesure de ses besoins, je suis persuadé que ça reste au fond de chacun d'entre nous. C'est entré et ça va être très très difficile de le faire sortir parce que pour ça, je suis sûr que beaucoup de Français, notamment des jeunes, sont prêts à se battre pour le garder. Il reste beaucoup de choses. Il reste aussi que le fait que la France a été reconnue à la fin de la guerre comme une grande puissance. C'est tout de même en partie grâce à la résistance. C'était pas évident que la résistance pourrait apporter une contribution, même minime, à la victoire en 45. La contribution a été estimée par le général Eisenhower à la valeur de 15 divisions. Mais c'était tous les renseignements qui ont facilité la tâche des Alliés, c'est en grande partie l'œuvre de la résistance. Bon, si nous n'avions pas eu l'unité, si les tentatives ou tentations de division qui existaient dans la France occupée, encore en 42, début 43, qui aurait pu nous conduire à la situation de la Pologne ou de la Yougoslavie ou de la Grèce, c'est-à-dire terminer la guerre en guerre civile, c'est grâce à la résistance, c'est grâce à l'unité de la résistance, je crois, que nous avons obtenu un statut international convenable. Ça répond à la question, j'espère.
Vas-y.
Pourriez-vous nous dire en quelques mots l'arrestation de Jean Moulin ?
Avant de parler de l'arrestation de Jean Moulin, je voudrais vous raconter en quelques mots ma première rencontre avec Jean Moulin. Il a été parachuté dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, près de Béziers, sa ville natale. Il avait été préfet, révoqué par Pétain. Il avait visité la France pendant quelques mois. Il avait rejoint De Gaulle. Et voilà qu'on nous annonce l'arrivée d'un monsieur Rex, représentant le général De Gaulle, envoyé par le général De Gaulle, qui rentre en France. Tout de suite après son arrivée, il a rendez-vous avec un de nos camarades, le chef d'une organisation qui s'appelait Combat, le capitaine Freinet à Marseille. Et 8 jours après, il a rendez-vous avec Bernard. Bernard, c'est Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui était le fondateur et le chef de notre organisation, Libération. Alors, à la fin de la première semaine de janvier 1942, à Lyon, on nous annonce que M. Rex a rendez-vous avec Bernard. Et Bernard n'est pas là. Il est en voyage, je ne sais pas où. Et mes camarades me disent, « Eh bien, toi, tu vas aller au rendez-vous avec ce M. Rex, tu verras ce qu'il veut, et tu verras si tu peux l'aider. » Alors, on me donne le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est à 7h30 du soir, il fait nuit, derrière les colonnes du théâtre municipal de Lyon, en plein centre de la ville, juste derrière la mairie, c'est plein de policiers, il fait froid. Alors je suis là, derrière les colonnes, j'ai rendez-vous avec un monsieur Rex, que j'ai jamais vu, il m'a jamais vu. Alors je voudrais poser la question aux jeunes. On est dans la clandestinité, la police est là, tout est dangereux. Un rendez-vous de deux clandestins derrière les colonnes du théâtre municipal de Lyon. Comment est-ce qu'ils vont se reconnaître ? Moi, au Brac, j'attends un certain Rex. Le Rex qui va venir, il attend un certain Bernard. Bon, comment on fait pour se reconnaître ? Avez-vous une idée ?
Vas-y. Avec des codes. Avec un code.
Avec, oui ?
Qu'est-ce qu'il dit ?
Avec un code.
Avec un code. Oui, je pose la question parce que de temps en temps, on me fait des propositions assez intéressantes. Par exemple, l'autre jour, il y a une petite de troisième qui m'a dit « C'est pas difficile, vous portez tous les deux un chapeau jaune. » Oui, alors c'est vrai, il y avait un code, il y avait un échange de phrases convenu à l'avance. Et en passant, ce Rex que j'avais jamais vu m'a dit « La lune est verte ce soir. » Et moi j'ai répondu « Non, la lune est carrée. » C'est tout, on s'était reconnus. Alors il m'a dit de le suivre, il m'a amené de l'autre côté de l'hôtel de ville, dans une maison où il avait la clé, il m'a fait entrer, il m'a dit « Bonjour Bernard », je lui ai dit « C'est pas Bernard, c'est Aubrac, est-ce que je peux vous aider ?» Alors il m'a dit « Je vais vous montrer ma mission ». Et il a sorti sa boîte d'allumettes, il a vidé les allumettes, il a pris une pince à épiler, il a soulevé le fond de la boîte Et sous le fond de la boîte, il a sorti une petite micro-photo de son ordre de mission du caporal Mercier. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu la signature du général de Gaulle. Alors, il avait une mission double. Premièrement, faciliter la coordination des mouvements de résistance de la zone sud. Deuxièmement, aider à mettre sur pied l'armée secrète. Alors, l'armée secrète, c'était l'expression de l'aspiration d'un certain nombre de nos camarades de prendre part à la bataille de libération. Donc, dans chacun des mouvements de résistance principaux, il y avait ce qu'on appelait un groupe paramilitaire. Et à Libération, j'étais chargé de ce groupe paramilitaire. Si bien que j'ai assisté à 5 ou 6 réunions avec Jean Moulin. Et puis, au début de juin 1943, le général de Gaulle avait nommé un chef de l'armée secrète qui s'appelait le général de Lestrin, que nous appelions Monsieur Vidal. Le général de Lestrin a été arrêté à Paris, à une station de métro, par la Gestapo. Et à ce moment-là, Jean Moulin savait que le successeur serait nommé par le général de Gaulle. Mais quand ? On est en juin 43, de Gaulle est en face de beaucoup de problèmes à Alger, la bataille avec Giraud, etc. Donc, en attendant, Jean Moulin décide de prendre des mesures pour continuer le travail de mise en place de l'armée secrète. Alors, la situation est différente dans l'ancienne zone nord et dans l'ancienne zone sud. À ce moment-là, il n'y a plus de ligne de démarcation, la France est réunifiée, mais le travail d'unité est beaucoup plus avancé au sud qu'au nord. Parce qu'il est vrai qu'on a été au sud dans des conditions de travail plus faciles qu'au nord. Alors, Jean Moulin décide de nommer ce qu'il a appelé 2 inspecteurs généraux pour continuer ce travail d'unification. Et il m'a demandé de partir à Paris, de venir à Paris pour continuer le travail d'unification au nord. Le dimanche 20 juin 43, j'avais rendez-vous avec lui au parc de la Tête d'Or à Paris. J'ai été avec Lucie et la petite voiture d'enfant. Nous avions un petit garçon de 2 ans. Nous promenions au parc, il faisait très beau. Et puis nous avons rencontré un ami, comme on rencontre un ami dans un parc le dimanche matin. C'était Max, Jean Moulin. Et nous avons bavardé. Et là, il m'a demandé, et il m'a expliqué que le lendemain, il y aurait une réunion au cours de laquelle il me demanderait de prendre cette responsabilité, de partir à Paris, etc. Et naturellement, j'ai dit oui. Il m'a donné rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain, je l'ai retrouvé à 2h de l'après-midi près de la gare Perrache. Il m'a emmené dans un tramway, puis dans le funiculaire qui monte à Caluire. Nous sommes arrivés à Caluire, un peu en retard, et nous sommes entrés dans la maison du docteur Dugoujon. Et dans les minutes qui ont suivi, la maison a été investie par les SS et la Gestapo, et nous avons tous les occupants de la maison ont été arrêtés, menottés, y compris, c'était pendant l'heure où le médecin reçoit ses malades. Il y avait 2 femmes qui attendaient leur tour pendant la consultation. Tout le monde a eu les menottes et est emmené à la prison. Voilà les conditions de l'arrestation. Ça répond à la question.
Je glisse une question d'une lycéenne.
Actuellement, on nous montre des films sur la résistance. Quelle est votre attitude sur ces films et est-ce qu'elle montre vraiment la réalité de la résistance?
C'est très compliqué de répondre à cette question. En général, il y a des morceaux de réalité dans les films, et puis il y a aussi souvent des morceaux de fiction. La résistance, c'est beaucoup d'événements très complexes. Par exemple, 3 films ont été faits sur mon épouse Lucie. Il y en a un qui s'appelle Boulevard des Hirondelles, qui est très proche du livre de souvenirs qu'elle a écrit sous le titre Ils partiront dans l'ivresse, et de mon propre livre de souvenirs que j'ai écrit sous le titre Où la mémoire s'attarde. C'est ce petit bouquin. Et puis le deuxième a été fait par Claude Berry. Il a bénéficié ou souffert d'une énorme publicité. Il est intitulé Lucie Aubrac. Et le troisième a été fait par une jeune cinéaste canadienne. Alors le plus important, naturellement, celui qui a été le plus projeté, c'est le film de Claude Berry, Lucie Aubrac. Il raconte l'histoire de mon évasion. Le fond de l'histoire est exact, mais il y a pas mal de détails qui sont erronés. Peut-être quelques-uns d'entre vous ont-ils vu ce film. Au début du film, je fais sauter un train. Je place des explosifs, j'allume avec mes camarades, je me sauve, le train saute et déraille. Eh bien, c'est pas vrai. Je vous assure que je n'ai jamais fait sauter de train personnellement de ma vie. Mais Claude Berry disait, pour moi, la résistance, ça fait sauter des trains, alors vous ferez sauter un train. Et puis dans le film, l'histoire de mon évasion est exacte. Lucie a son équipe, elle monte un scénario extraordinaire. Finalement, elle a obtenu que je sois un certain jour dans un certain camion de la Gestapo. Elle attaque le camion avec ses camarades. Il y a 14 prisonniers. Les Allemands ont 3 tués. Moi, je reçois une balle dans la joue qui est sortie derrière l'oreille. On voit la trace. Et je saute du camion. Alors, dans le film de Claude Berry, Lucie et moi, on se prend dans les bras l'un de l'autre et on s'embrasse longuement au milieu de la rue. Eh ben, c'est pas vrai. Dès que j'ai sauté du camion, je vous jure que j'ai fichu le camp le plus vite possible. Alors, c'est ça le cinéma, hein.
J'ai une question. Combien de temps vous a-t-il fallu pour comprendre qui était Pétain et quelles étaient les grandes orientations de son gouvernement?
Ah, je ne pourrais pas bien répondre à cette question. Très vite, j'ai été choqué par la politique de Pétain, pour les raisons que j'ai dites. En plus, quelques-uns d'entre vous doivent savoir que je suis d'origine juive. Alors il y avait toutes les mesures de Pétain qui excluaient en pratique les juifs de la communauté nationale. Mais pour comprendre vraiment qui était Pétain, pour moi c'est très difficile. Je fais le raisonnement suivant, avec ce que nous a appris l'histoire. Essayons de nous mettre à la place du gouvernement allemand ou du commandement de la Wehrmacht. Nous sommes dans l'été 40. Nous venons de battre l'armée française. Nous tenons l'ensemble du pays sous notre poigne. Qu'est-ce qu'on fait avec la France? Alors, les Anglais continuent de résister, de se battre. Il faut se battre contre l'Angleterre. Nous allons attaquer l'Union soviétique. Nous avons donc une guerre très dure, très longue à mener. Nous avons une population allemande à nourrir. Nous avons des usines à faire travailler pour nos armements. Naturellement, nous avons notre armée à entretenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la France? Laissons de côté les aspects purement idéologiques. Prenons les choses concrètes, pratiques. Pour nous, Allemands, état-major allemand, il nous faut au maximum exploiter l'agriculture française, faire fonctionner l'industrie française pour nous, pour nos armements, pour notre population, et tout ça le moins cher possible, en mobilisant le moins d'hommes possible pour obtenir dans les meilleures conditions ce résultat. Faire travailler la machine France à notre profit. Eh bien, quand on regarde ce qui s'est passé à cette époque, à travers l'Europe, il n'y a pas de meilleure solution pour l'état-major allemand que le maréchal Philippe Pétain. C'est lui qui peut remettre la France au travail, c'est lui qui peut inspirer confiance, et c'est lui qui peut le plus efficacement nous aider à exploiter la machine France. Voilà. Ça, très franchement, je ne l'ai pas compris tout de suite. Je l'ai compris plus tard, quand j'ai pu comprendre ce qui se passait en Belgique, en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Pologne, dans tous ces pays-là. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Une question ici.
Quel a été le rôle de René Hardy ? Je vous remercie.
Quel a été le rôle de René Hardy dans l'arrestation de Jean Moulin ?
Bon, alors nous revenons à l'arrestation de Caluire, 21 juin 1943. La Gestapo arrive, arrête tout le monde, c'est-à-dire les camarades convoqués par Jean Moulin pour prendre des décisions sur le travail de l'armée secrète, les deux malades qui attendent leur tour dans la salle d'attente du médecin, et puis il y a un personnage qui n'était pas prévu, qui s'appelle René Hardy. René Hardy, c'est un camarade de la résistance qu'on connaît. Il est très sympathique. C'est un très beau garçon, très courageux. Il a fait du bon boulot en travaillant notamment sur les chemins de fer. Il a une maîtresse magnifique qui promène un peu partout. Mais il est à la Réunion, il n'est pas prévu. Il n'est pas dans la liste très très restreinte que Jean Moulin a convoqué pour une réunion dans des conditions très importantes, très graves. Alors la Gestapo met les menottes à tout le monde et embarque tout le monde dans ses voitures traction avant qui sont devant la porte. Il y a une personne qui n'a pas de menottes, c'est René Hardy. Il est tenu par un policier allemand, par un cabriolet, c'est-à-dire une petite chaîne ou une corde fixée à deux poignets qu'on entoure autour du poignet et on tient les... Il arrive devant la voiture, au moment où on le fait monter dans la voiture, il donne un coup de coude dans l'estomac du soldat qu'il tient, il traverse en courant la place Castellane devant la maison du docteur Dugoujon. Il y a autour de la maison 7 ou 8 hommes armés de mitraillettes, de tirs automatiques. On entend 2 ou 3 coups de feu séparés et Jean Moulin disparaît, René Hardy disparaît. Alors, c'est à cause de ça que personnellement, je connaissais Hardy, je le connaissais, pour moi c'était un bon camarade. Personnellement, sur le champ, j'ai eu le sentiment que René Hardy était l'homme qui avait, d'une manière ou de l'autre, amené la Gestapo à cette réunion. Alors on a appris après qu'il a été blessé au bras. On ne saura jamais s'il a été blessé, s'il s'est blessé lui-même ou pas. Il s'est réfugié chez des gens qui ont appelé la police française. La police française est venue et l'a mis en garde à vue à la prison Saint-Paul. 2 jours après, les Allemands sont venus le chercher et ils l'ont emmené dans leur hôpital. Et 15 jours après, il s'est évadé de l'hôpital allemand. Et puis, il y a eu naturellement une procédure judiciaire. Il a été présenté devant une cour d'assises, défendu très brillamment par un grand maître du barreau. Il y a eu un débat politique autour de ce procès, parce que René Hardy avait des camarades qui l'ont défendu, qui ne voulaient pas croire en sa culpabilité. Il a été acquitté. 2 ou 3 mois après son acquittement, on a appris, grâce à un cheminot des wagons-lits, que René Hardy avait été, 15 jours avant l'arrestation de Caluire, arrêté par la Gestapo dans un train à Chalon-sur-Saône, entre Lyon et Paris, emmené à Lyon par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, qu'il a gardé pendant 2 jours et qu'il a remis en liberté. Et René Hardy n'avait jamais raconté cette arrestation à ses camarades. Alors il y a eu un deuxième procès. Le deuxième procès était devant un tribunal militaire. Dans un tribunal militaire, vous vérifierez, mon général, si je me trompe, quand la peine de mort est requise, pour qu'elle soit prononcée, il faut ce qu'on appelle une majorité qualifiée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 5 voix pour la culpabilité. Il y a eu 4 voix sur 7 qui ont condamné, qui ont déclaré la peine de mort. De nouveau, René Hardy a été acquitté. Donc cet homme a été acquitté 2 fois. Ses camarades ne l'ont plus revu. Il est parti, il est d'abord parti à la campagne, enfin il est mort. Il est mort complètement isolé quelques années après. Voilà ce que j'ai à dire sur René Hardy. Je pense qu'actuellement, la majorité des historiens pensent que réellement, d'une manière ou de l'autre, la Gestapo a pris le contrôle de René Hardy, peut-être en menaçant sa famille, peut-être à cause de cette très belle femme qui promenait avec lui dans Lyon. Et personnellement, j'ai été témoin à charge dans les 2 procès. Mon avis n'a pas changé, mais je crois qu'il est maintenant celui, on peut dire, d'une majorité des historiens. J'espère que ça répond à la question.
Monsieur Brac, il est 4h30 et je crois que nous devons arrêter parce qu'il y a maintenant une cérémonie. Les enfants doivent repartir par l'autocar. Je voudrais vous dire que vous nous avez convaincus, vous avez l'art de raconter. Parce que vous avez vécu tout cela, mais ce n'est pas parce qu'on l'a vécu qu'on la raconte bien, cette histoire. Et vous, vous la vivez encore. Et nous avons compris que pour vous, résister, c'est exister. Et vous le prouvez en venant ici à 95 ans. Alors simplement, nous vous souhaitons de venir à Cambrai dans 5 ans pour fêter votre centenaire. Merci infiniment.
Laurence Sédon. Merci à tous. Je voudrais simplement, pour conclure, rappeler aux jeunes qui sont là un mot que Lucie répétait souvent, le verbe résister se conjugue au présent. Merci.
Cher monsieur Raymond Aubrac, monsieur le député maire est à Paris, il a été appelé hier et il se faisait une joie d'être à vos côtés aujourd'hui, mais les obligations politiques l'ont amené à être sur Paris et il m'a chargé de vous exprimer sa gratitude d'être venu à Cambrai, d'apporter ce témoignage vivant aux jeunes, aux moins jeunes, mais en tout cas dans le nord de la France où il y a haut et fort des valeurs que nous soutenons, il est important que vous veniez apporter votre présence et votre témoignage pour continuer et penser et être intelligent et être un humain debout. Alors, je vais demander au public de se lever pour se joindre à l'honneur de vous remettre, Monsieur Raymond Aubrac, le témoignage de la ville de Cambrai, la grande médaille de la ville de Cambrai, ce jour du 6 octobre. Merci beaucoup d'être à Cambrai parmi nous.
Merci, madame.
En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UTL et puis de nous faire connaître l'AERI générale. Vous serez toujours le bienvenu et j'espère que les lycéens, les collégiens, les écoles vont répondre à votre invitation de projet citoyen. Encore une immense reconnaissance, cher Raymond Aubrac.